Difficile message encore que ce matin. Pour ceux qui étaient là la fois dernière où j'ai prêché, hein, ça remonte déjà. Nous avions fait une petite excursion dans un des livres les plus difficiles de la Bible, non par sa longueur, mais par son caractère relativement court, mais assez déroutant. Ce livre n'est rien d'autre que celui de Joël, ce petit prophète qui n'a jamais été cité dans l'Ancien Testament par un autre prophète et qui n'a été cité une seule fois dans le Nouveau par Pierre lors de la Pentecôte. Vous pouvez commencer à le chercher, entre guillemets, vu qu'on le tourne rarement. Hein. Ce livre est terrible car il vient de montrer dans les deux premiers chapitres que les catastrophes naturelles qu'est en train de vivre Juda sont le produit de la désobéissance et du jugement de Dieu sur le péché de son peuple et sur le mal que le peuple a fait. L'histoire a un sens pour le prophète Joël. Dieu est aux commandes et aux manettes de la destruction causée par l'invasion des sauterelles et la sécheresse. Le jour du Seigneur, ce jour de jugement sur le mal, vient de faire sa pleine apparition sur le mal causé par Juda, et les conséquences en sont tragiques. Nous ne pouvons passer sous silence les centaines de personnes qui sont en train de passer par le deuil vécu par le tsunami au Japon. La mort est là. Elle touche, sans distinction, un peu aveuglément. La souffrance est là, aussi. Pourtant, Dieu aussi est là. Je nous encourage à percer, à essayer de percer avec moi le mystère de la présence de Dieu au sein de la souffrance humaine. Je vous invite ce matin à oser comprendre l'incompréhensible et à oser entrevoir la possibilité d'accepter que la souffrance puisse être le mégaphone de Dieu pour faire sortir de son indifférence un monde sourd. Je vous invite à découvrir les trois réactions que Dieu désire susciter par le mégaphone de la souffrance humaine. Je vous invite à lire avec moi Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Si vous n'avez pas de Bible, Eric pourra vous en donner. Merci Eric. Je t'ai même pas prévenu, excuse-moi. Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Alors, je ne vous donne pas le numéro de la page, mais nous sommes quasiment à la fin de l'Ancien Testament. Si vous arrivez au Nouveau, vous êtes trop loin. Si vous êtes à Zacharie, vous remontez un peu, et c'est juste après Daniel. Vous y êtes ? Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible ? On n'est pas pressé à la seconde ? Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. « 12 à 27. Maintenant encore, déclaration du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur. Et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Il regrette le mal qu'il fait. Qui sait s'il ne reviendra pas, s'il n'aura pas de regrets et s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, consacrez une assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons, au sein de leur mère, que la mariée sorte de sa chambre, le marié de sa tente, qu'entre le vestibule et l'autel pleurent les prêtres, les officiants du Seigneur, et qu'ils disent « Seigneur, épargne ton peuple ». Ne livre pas ton patrimoine aux outrages, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Le Seigneur s'est pris d'une passion jalouse pour son pays. Il a épargné son peuple. Le Seigneur a répondu. Il a dit à son peuple, « Je vous envoie le blé, le vin, l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus aux outrages des nations. J'éloignerai vous celui qui vient du nord. Je le bannirai vers une terre desséchée et dévastée. Son avant-garde vers la mer orientale et son arrière-garde vers la mer occidentale. Sa puanteur s'élèvera, son infection s'élèvera, car il fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Bêtes des campagnes, n'ayez pas peur, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent du fruit, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne salutaire. Il fait descendre l'averse pour vous, puis d'automne, puis de printemps, comme par le passé. Les vers se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le crillon, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui a agi envers vous de façon étonnante. Plus jamais mon peuple n'aura honte. Ainsi vous saurez que je suis au sein d'Israël, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Plus jamais mon peuple n'aura honte. En face de la souffrance, et de la désolation causée par une catastrophe naturelle, l'homme est en proie à une attitude toujours identique. Lorsque celle-ci nous touche de plein fouet, c'est l'amertume qui nous envahit. La lamentation a d'ailleurs caractérisé le peuple de Juda dans le premier chapitre. Nous l'avons vu la fois dernière, la lamentation était de rigueur pour tous, tant le fléau a touché l'ensemble de la population avec une force sans précédent. Pourtant, en face de cela, le prophète désire que le peuple de Juda dépasse ce sentiment. Oui, qu'il dépasse ce sentiment de tristesse pour entrevoir un autre chemin, celui de la repentance. Maintenant, verset 12, encore déclaration du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez au Seigneur, votre Dieu. La déclaration de l'Éternel par l'intermédiaire de son prophète est assommante. Le peuple de Juda est appelé à revenir à l'Éternel. La souffrance doit être le chemin vers la repentance, le retour à Dieu. La souffrance en elle-même n'est pas satisfaisante ni suffisante, mais en quelque part, elle est ce mégaphone pour nous recentrer sur l'essentiel. L'appel est désespéré. Dieu désire par-dessus tout que nous revenions à lui. C'est le cri de désespoir de l'époux qui a été trompé et qui désire reconquérir la femme de sa jeunesse. La colère de Dieu est là. Mais le Seigneur invite. Le Seigneur n'a pas besoin de se calmer, car sa colère est justifiée, mais le volte-face de l'Éternel est là. Le Seigneur semblait être l'ennemi dans le premier chapitre, et il se fait le refuge maintenant. Le Seigneur en appelle au siège de la volonté et des sentiments pour le Juif, au cœur. Centre des décisions, des actes, des pensées, il attend notre amour. L'attitude extérieure ici, les jeunes, n'est que le reflet de l'attitude intérieure. L'Éternel désire un changement radical. Tous les actes de bien ne servent à rien pour obtenir le pardon de Dieu. Seul le retour à Dieu lui-même est suffisant et déterminant. Nous pouvons donner notre vie aux pauvres, leur apporter à manger chaque jour, cela ne nous donnera pas l'accès au pardon de Dieu. Nous pouvons passer tous les jours du temps à lire la Bible, à prier. Si nous croyons que c'est par cela que nous allons obtenir le pardon, cela ne sert à rien. Nous pouvons faire ce que nous voulons, cela ne nous donnera pas accès au pardon de Dieu. Seul le retour à Dieu lui-même est suffisant et déterminant. Dieu n'appelle aucunement le peuple à expier son péché, c'est-à-dire à endurer la peine de son péché. Pas besoin d'autoflagellation. Dieu appelle le peuple à revenir à lui. C'est le même appel ce matin à tous ceux qui souffrent. Non pas que la souffrance a toujours la conséquence du péché, car une telle affirmation serait totalement erronée et injustifiée. Toutefois, la souffrance est son mégaphone. Aucun péché dans le texte n'est ici dénoncé. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire une liste de nos péchés. Pourtant, dans nos vies, Dieu n'est-il pas victime parfois de l'indifférence, de la négligence ou de manque d'amour? Alors Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui et à lui seul. Je dois vous partager aujourd'hui qu'actuellement, mes regards sont parfois plus tournés sur les affaires dans le cadre de mon travail que sur Dieu. Je passe parfois beaucoup de temps à penser à des opportunités que je pourrais saisir et faire tel ou tel projet. Pourtant, ce matin, Dieu me rappelle à lui. Il désire que je revienne à lui seul. Pas besoin de substitut pour combler mes besoins. Lui seul suffit. Pour vous, c'est pareil. Dieu vous désire. Si vous l'avez négligé, si vous avez négligé de passer du temps avec lui, il attend un retour complet à lui. Si vous avez été indifférent par rapport à vos prochains, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Il attend un retour complet vers lui. Dieu est victime souvent dans nos vies par le rejet, malgré ce qu'il a pourtant fait. À nous de réagir. La repentance, le retour à Dieu, nous est ouvert ce matin comme pour les habitants de Juda. Allons-nous le saisir? Toutefois, n'oublions pas que si ce retour à Dieu est possible, c'est avant tout grâce à Dieu lui-même et ce qu'il est. Je vous invite à lire avec moi le verset 13. Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est clément et compatissant. Il est patient et grand par la fidélité, et il regrette le mal qu'il fait. Les caractéristiques de Dieu sont les composantes mêmes de notre possibilité de revenir à lui. Sa miséricorde, son amour inconditionnel le dispose au pardon. Il ne souhaite pas le mal, il regrette le malheur. Se repentir ou regretter prend tout simplement un sens différent que nous avons l'habitude d'entendre. C'est le sentiment, écoutez-moi bien, qui pousse le Seigneur à annuler une décision qu'il a exprimée auparavant et à renoncer à faire ce qu'il avait déclaré qu'il allait faire. Je vous la refais. C'est le sentiment qui pousse le Seigneur, le fait de regretter, de se repentir dans des versions, c'est le sentiment qui pousse le Seigneur à annuler une décision qu'il a exprimée auparavant et renoncer à faire ce qu'il avait déclaré qu'il allait faire. Le Seigneur regrette d'avoir été amené à agir comme il l'a fait, car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige. Vous savez combien j'aime mon fils. Pourtant, il ne passe pas une semaine sans que celui-ci ne reçoive une fessée. Non que j'aurais un malin plaisir à le frapper, mais au contraire, mon amour pour lui désire que par cette correction, il puisse apprendre la soumission et l'obéissance. Celle-ci n'est jamais une partie de plaisir, ni pour le père, ni pour l'enfant. Et je regrette, comme Dieu, d'avoir agi comme je le fais. Le mal ne désigne pas ici le mal entraînant la culpabilité, mais le malheur suscité comme un châtiment. Je me rappellerai toujours de cette histoire dans un livre d'éducation sur les enfants, l'auteur racontait l'histoire de cette mère avec son fils. Le fils avait une maladie sur une jambe et celle-ci était fragile, ce qui lui obligeait à porter des béquilles. Toutefois, le médecin avait bien indiqué à la mère que le fils devait absolument faire travailler sa jambe malade. Et lorsque celui-ci tombait, il fallait qu'il se relève seul. Même si c'était difficile, vous imaginez, vous tombez, vous avez des béquilles, remontez tout seul, c'est pas évident. Il a dit qu'il fallait bien qu'il se relève seul. Lorsqu'il utilisait sa jambe valide pour soulager celle malade, elle devait lui mettre aussi une fessée pour qu'il ne recommence pas. Quelle horreur pour cette mère qui a dû souffrir les regards des autres parents et du jugement de l'inhumanité qu'on pue. Et à son paroxysme, taper un enfant qui tombe ou qui utilise sa mauvaise jambe. Pourtant, la conséquence a été là. La guérison du petit garçon ne s'est pas fait attendre. En effet, l'enfant a fait de plus en plus travailler la jambe malade et ainsi celle-ci a repris son développement normal. Et aujourd'hui, cet enfant marche normalement, comme tout le monde. La tristesse présente a porté ses fruits. Ne croyez pas qu'il a été facile à cette mère d'agir comme elle l'a fait. Elle a souvent eu besoin de pleurer, d'ailleurs, sur l'épaule de ses amis pour partager sa souffrance de devoir agir comme elle le faisait. Pour Dieu, c'est exactement pareil. La punition qu'il inflige n'est jamais pour lui une partie de plaisir. Dieu n'est pas inhumain, même si le terme n'est pas tout à fait approprié. Il désire nous bénir et exprimer son amour. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas, s'il n'aura pas de regrets et s'il ne délaissera pas derrière lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour le Seigneur votre Dieu. Le texte ne nous présente pas un Dieu qui change d'avis, mais au contraire un Dieu qui change d'attitude. L'Éternel n'est pas le Dieu des platoniciens, à savoir un Dieu immobile, un Dieu statique, froid, de marbre. Non, au contraire, il est un Dieu vivant, trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui entretient avec eux et éternellement des relations personnelles et vivantes et dynamiques. Ainsi, notre Dieu, unipersonnel et tripersonnel également, qui ne change pas dans son essence ou dans sa nature, mais change cependant d'attitude envers ses créatures en fonction de l'état de leur relation avec lui. Non, nous ne sommes pas dans une histoire où tout est écrit d'avance, où nous ne sommes plus responsables de rien. Bien au contraire, Dieu tient compte de notre attitude et en fonction de celle-ci, il change d'attitude. Verset 17. Qu'entre le vestibule et l'autel pleurent les prêtres, les officiants du Seigneur, et qui disent « Seigneur, épargne ton peuple, ne livre pas ton patrimoine, décidément, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ?» Mais le prophète ne s'arrête pas là. Il demande à tout le peuple de se repentir, mais il appelle aussi à quelque chose d'autre, de particulier, et notamment aux prêtres. C'est la deuxième réaction attendue par Dieu. Joël, porte-parole de Dieu, invite le peuple à une prière toute particulière, et en particulier aux prêtres. On pourrait dire qu'il s'agit d'une prière d'intercession. Pour moi, je trouve que c'est une prière engagée et très provocatrice. En plus, c'est Dieu qui en est l'initiateur. Regardez, le peuple est invité à supplier Dieu qu'il l'épargne, qu'il ait pitié de lui. Cette prière s'appuie sur trois points. Épargne ton peuple, ne livre pas ton patrimoine aux outrages pour qu'il soit la fable des nations. Les peuples se moqueront de toi et demanderont « Où es-tu ?» Cette prière demande à Dieu de se souvenir que le peuple de Juda est son choix et que lui est intimement lié avec la destinée de son peuple. En délivrant de l'esclavage en Égypte, le Seigneur s'est acquis Israël pour son peuple en vertu d'un choix et motivé par son amour. Hallucinant le modèle de prière d'intercession et de supplication. Celle-ci souhaite rappeler à Dieu le choix et l'amour pour son peuple. Cette prière lie intimement la gloire de ce peuple à la gloire de Dieu. En gros, si je voulais traduire de nos jours, une prière identique pour nous, cela pourrait être la suivante. Seigneur, comme tu m'as choisi et que tu m'as aimé, pardonne-moi de tout le mal que j'ai pu te faire. Il faut oser quand même. Hein. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à formuler une prière identique. Car nous sommes également son peuple. En effet, nous sommes sous la nouvelle alliance. Après Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Vous connaissez tous le passage d'un Pierre qui dit « Nous sommes un peuple élu, une nation sainte, une race élue. » Par conséquent, nous sommes en droit d'utiliser cette prière d'intercession pour implorer le pardon de nos péchés. Osons la prière qui rappelle à Dieu ce qu'il a fait pour nous, à savoir qu'il nous a choisis. Vous connaissez tous le passage d'Éphésiens. À savoir qu'il nous a aimés en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous, pour mourir pour nous. Dieu aime que nos prières rappellent que sa gloire est intimement liée à celle de son peuple, à la nôtre. Osons ce type de prière pour susciter la troisième réaction, qui est la grâce de Dieu. Un changement radical vient de se passer entre le verset 17 et 18. Si vous avez lu avec moi, vous avez bien vu qu'il y avait un bouleversement manifeste entre ces deux versets. D'ailleurs, tout laisse à penser que l'oracle prononcé, c'est-à-dire la parole adressée par Dieu à Joël, sur la section 18-27, intervient une fois survenue la repentance du peuple. Que le Seigneur répond à son peuple laisse supposer, d'après les plus grands nombres des exégètes, que les Judéens ont appliqué les deux réactions face au mégaphone de la souffrance. À savoir, réaction numéro 1, une repentance sincère et collective, un retour à Dieu sans partage. Deuxième réaction, les prêtres ont réalisé la prière d'intercession, cette prière provocatrice qui rappelle à Dieu son choix et son amour. La réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Nous voyons comme Dieu soupire après le retour vers lui et la joie qu'il a quand cela arrive. Les paroles du Seigneur sont bénéfiques. Elles sont le pendant positif des malheurs envoyés du chapitre 1 et 2. On voit dans ce passage ce qu'éprouve l'Éternel lorsque son peuple se repent. Verset 18. Le Seigneur s'est pris d'une passion jalouse pour son pays. Il a épargné son peuple. Ou peut-être du verset 14, se change donc en certitude. Le Seigneur n'a jamais oublié son peuple et il se laisse prendre de pitié pour lui. Bien plus encore, il éprouve un ardent amour qui va le pousser irrésistiblement à répondre à la prière et déverser sa bénédiction sur son peuple. Dieu n'a jamais perdu le formidable amour qui l'anime. Même si la repentance du peuple était indispensable, le Seigneur n'accorde sa bénédiction qu'à cause de sa grâce et de son amour. La repentance effective du peuple n'est d'ailleurs même pas mentionnée. Encore une fois, nous pourrions croire que la repentance est une œuvre. Pourtant, Joël et Dieu nous rappellent à travers ce passage que le pardon, c'est la grâce de Dieu qui agit. La repentance, le retour à Dieu, la prière d'intercession sont des moyens qui nous permet de nous placer dans une situation où Dieu va pouvoir exercer sa grâce, son pardon, son amour. Encore une fois, nous n'y sommes pour rien. C'est en Dieu qu'est la force. Verset 19. Le Seigneur a répondu. Il a dit à son peuple, « Je vous envoie le blé, le vin et l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus aux outrages des nations. » L'absence de nourriture était pesante dans le premier chapitre. Mais à cela, l'Éternel répond qu'il va rassasier le peuple. Verset 20, « J'éloignerai de vous de celui qui vient du nord. Je le bannirai vers une terre desséchée et dévastée, son avant-garde vers la mer orientale et son arrière-garde vers la mer occidentale. Sa puanteur s'élèvera, son infection s'élèvera, car il fait de grandes choses. L'Éternel chasse les sauterelles qui avaient dévasté le pays, amenant avec elles toute la dévastation. Verset 21, terre, personnification de la terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. La terre n'est plus dans la souffrance, comme au chapitre 1, mais dans la joie, car le Seigneur lui redonne de la vigueur. Verset 22, bêtes de la campagne, n'ayez pas peur, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent du fruit. Le figuier et la vigne donnent leur richesse. Les bêtes qui, solidairement dans le premier chapitre, souffraient avec le peuple, sont dans la joie devant la bénédiction de l'Éternel sur les pâturages. Et vous, fils de Sion, verset 23, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne salutaire. Il fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps comme par le passé. La pluie est là pour contrecarrer la sécheresse et pour apporter la joie et la reconnaissance au Seigneur. Les aires se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin et d'huile, verset 24. Verset 25, je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. La dévastation causée par les sauterelles n'est plus que du passé et l'Éternel envoie une bénédiction pour compenser les ravages causés. Versets 26 et 27, la fin de notre passage. Vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu qui a agi envers vous de façon étonnante. Plus jamais mon peuple n'aura honte. Ainsi vous saurez que je suis au sein d'Israël, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Plus jamais mon peuple n'aura honte. La famine et l'interruption du culte parviendront à leur fin. Le peuple pourra de nouveau louer le Seigneur pour ses bienfaits. La bénédiction suit donc la correction du Seigneur dans cette histoire. Judas, qui faisait l'objet d'une correction et du jugement de l'Éternel, fait l'objet, après une repentance sincère, de la pluie de bénédiction de Dieu. Dieu n'a jamais visé autre chose que cela. Dieu désire nous bénir, que cela soit de bénédiction matérielle, comme Judas, ou de bénédiction spirituelle. Dieu désire nous combler. Pourtant, quand vient l'heure de la souffrance, Dieu nous semble pervers et horrible. J'aimerais reprendre cette petite parabole, qui n'est pas de moi, je vois ça. Une équipe de vétérinaires s'est réunie, car l'ours des Pyrénées est malade. Il s'est attrapé la patte dans un piège et il perd beaucoup de sang. Si nous ne le soignons pas rapidement, ce convoque les vétérinaires, il va mourir. L'équipe de vétérinaires s'inquiète donc d'attraper l'ours pour le soigner. Toutefois, arrivés devant lui, ils sont obligés de lui tirer dessus avec une piqûre d'un puissant neuroleptique afin que celui-ci tombe dans les pommes et puisse être soigné. À ce moment-là, l'ours est en train de vivre la plus grave attaque de sa jeune carrière. Un groupe d'hommes essaye de le tuer. Vraiment intéressant. Pour l'ours, c'est une attaque horrible qui voit la fin par une piqûre et il souffre parce qu'il a mal à la jambe. Pourtant, ce que l'ours ne sait pas, c'est que ces personnes ne sont pas des chasseurs, mais des vétérinaires qui sont venus pour le soigner. Nous voyons souvent la souffrance humaine comme cet ours, sans voir souvent que celle-ci est utilisée par Dieu pour un plus grand bien qui nous est souvent caché lors de ces heures noires. Je vous encourage à garder à l'esprit cette idée. Dieu est infiniment plus grand que nous. Nous sommes en face de l'un des plus grands mystères, le mystère de la présence de Dieu au sein de la souffrance. Devant la catastrophe naturelle du Japon qu'est en train de vivre toutes ces familles japonaises qui viennent de perdre un membre, peut-être même leurs parents ou leurs enfants, nous sommes obligés d'être dans le silence. Et une fois de plus, de redire les paroles de Jésus que cite Luc au chapitre 13, verset 1 à 5. Je vous lirai juste un extrait. ceux qui sont morts à la suite de la tombée d'une tour n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Les catastrophes naturelles amènent avec elles leur lot de souffrances et de traumatismes. Elles rappellent toujours à nouveau la fragilité de la condition humaine. La vie ne tient qu'à un fil. Cet appel à la repentance, à revenir à Dieu, est identique pour nous aujourd'hui. C'est la réaction numéro un que Dieu désire susciter du mégaphone de la souffrance. Aujourd'hui, peut-être tout va bien, nous ne savons pas ce que nous réserve notre retour en voiture à la maison. Sommes-nous prêts pour le départ? Sommes-nous prêts pour la rencontre avec ce Dieu juste et saint? Si vous ne l'êtes pas, alors Dieu vous appelle, vous supplie d'entendre son mégaphone lors de votre souffrance, de l'entendre. Dieu attend après votre cœur. Il désire un retour à lui complet et sans partage, amenant ainsi une libération totale du péché. C'est votre cœur qu'il désire. Mais pour les chrétiens, c'est pareil. Si nous sommes égarés de lui et que nous souffrons, Dieu nous appelle aussi à revenir à lui. Et à supplier son pardon. Vous ne savez pas comment faire pour demander pardon à Dieu. C'est la réaction numéro 2. C'est une prière d'intercession, une prière provocatrice. Osez demander à Dieu le pardon. Osez lui rappeler ce qu'il a fait et ce qu'il est. Mais ce n'est pas tout. Après cette souffrance, Dieu désire nous combler de bénédictions. C'est ce que nous avons vu. À nous d'accepter ces bénédictions. C'est la troisième réaction. Les bénédictions ne seront pas forcément matérielles. Comme Judas, par contre, après la repentance et l'intercession d'une personne qui désire vraiment être pardonnée de ses péchés, une bénédiction l'attend, c'est la vie éternelle. Et l'attente sereine de la venue du grand jour de l'Éternel, celui qui viendra pour juger les vivants et les morts. Ça sera le chapitre 3 et 4 de Joël. Je vous invite à prier. Père éternel, ce matin, par ce texte, tu nous rappelles, à nous qui sommes chrétiens, que parfois nous te délaissons et tu demandes vraiment que nous retournions à toi complètement. Que nous ne soyons pas des chrétiens partagés qui vivent leur vie tranquillement, mais au contraire que tu désires que de tout notre être, nous puissions revenir à toi. Nous repentir de nos péchés et appliquer cette prière de repentance, de supplication, que tu nous épargnes. Vraiment, Père éternel, ce matin, c'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. L'appel de Dieu à revenir à lui. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, l'appel est un peu différent. Le péché nous sépare complètement de Dieu. Le péché nous place sous sa colère. Et ce matin, Dieu appelle encore une fois à lui, un retour à lui complet pour obtenir vraiment cette libération. Vous êtes invité ce matin à répondre à cet appel dans vos cœurs. Merci Père éternel parce que tu désires vraiment nous pardonner, tu désires que nous retournions à toi, tu désires que nous puissions être libérés, tu désires nous combler de tes bénédictions. Et nous, souvent, nous n'y sommes pas. Vraiment, Père éternel, merci de jeter un regard favorable sur nous. Et tu vois que si nous passons par des souffrances, tu n'es pas resté étranger et tu désires à travers cela que nous puissions nous tourner vers toi. Tu désires que nous puissions nous donner complètement à toi.